France Culture.
Le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, au lendemain de la mise en liquidation judiciaire de l'électroménager Brandt, une lecture des déclarations du ministre de l'économie, selon lequel ce n'est pas fini. Nous entrerons dans le détail de la stratégie nationale bas carbone, une feuille de route dévoilée ce matin qui doit permettre à la France d'atteindre la neutralité en 2050. La marche est haute, nous dira Véronique Reberotte. La crise de la dermatose, avec tout à la fois une aide d'urgence débloquée en Occitanie et le gouvernement qui réaffirme que la solution, c'est la vaccination. Nous aurons l'expertise de notre invité Pierre Bessière, virologue à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine prête à créer une zone démilitarisée dans le Donbass, une concession très dur pour Volodymyr Zelensky, explication Claude Guibal. Enfin, l'Union européenne s'apprête à taxer les petits paquets commandés par Internet d'une valeur de moins de 150 euros. Plus de 90% d'entre eux proviennent aujourd'hui de Chine. Précision avec à Bruxelles, Fabien Cazot. Anticiper et non réagir dans l'urgence, n'est-ce pas l'alpha et l'oméga de la puissance publique? Le sort réservé à Brandt nous invite à penser que le ministère de l'économie a pu oublier l'essentiel de sa raison d'être. Rappelons que le tribunal de Nanterre a décidé hier la liquidation judiciaire de la marque d'électroménager. 700 salariés sur le carreau, malgré un projet de SCOP soutenu par les élus locaux. Le gouvernement, pourtant, ce matin, prétend que ce n'est pas fini. Annabelle Grelier.
Le ministre délégué à l'industrie, Sébastien Martin, affirme ce matin sur TF1 qu'il ne laisse pas tomber et estime qu'il est possible d'imaginer un nouveau projet, soulignant qu'il y a toujours un site industriel et des savoir-faire. Cela ne veut pas dire que la liquidation de Brandt peut être annulée, cela ne veut pas dire non plus que le projet de SCOP peut reprendre, mais pour Bercy, il s'agit de ne pas laisser retomber le soufflet de la dynamique qui s'était mise en place en quelques semaines seulement autour du sauvetage de Brandt. Le ministre souhaite ramener tout le monde autour de la table, les élus locaux, les partenaires privés et les banques.
Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on n'agisse pas à nouveau dans la précipitation. Il faut qu'on prenne le temps. D'ici la fin de l'année, on va se revoir avec les acteurs locaux pour essayer de rebâtir un projet, un autre projet peut-être, un projet sérieux, tout aussi sérieux que celui-ci, avec plus d'investisseurs privés sans doute aussi. Je ne laisse pas tomber le fait que nous puissions avoir sur le territoire français, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, des acteurs de l'électroménager comme ça.
L'enjeu, dit-on à Bercy, est de ne pas laisser le site industriel devenir une friche qui serait ensuite impossible à relancer. Bref, battre le fer tant qu'il est chaud et ne pas recommencer les mêmes erreurs que le ministre reconnaît ce matin.
C'est vrai que pour avoir un engagement bancaire, il faut passer par un certain nombre de règles, de comités d'engagement. Et là, il y avait urgence et on n'a pas réussi sans doute, dans cette urgence, à aller chercher un peu plus de partenaires privés. En tout cas, j'aurais aimé peut-être que, face à l'urgence de la situation, on se dise que les procédures habituelles, on pouvait faire un peu mieux, un peu plus vite.
Un autre projet donc est possible, mais à ce stade, il n'y a rien de précis, sinon de réunir les bonnes volontés. Du côté des salariés, le ministre promet que les services de l'État veilleront à les accompagner à travers un plan social sérieux et des reclassements dans les usines de la région.
Annabelle Grelier, la liquidation judiciaire de Brandt intervient en pleine panne de la réindustrialisation en France. Elle en a fait marquer le pas l'année dernière. Le solde des créations d'usines était nettement positif en 2022. Il a nettement décliné en 2024. L'Assemblée nationale adopte en première lecture une proposition de loi socialiste visant à pérenniser l'encadrement des loyers contre l'avis du gouvernement qui souhaite attendre les conclusions d'une mission d'évaluation avant de légiférer. Le texte prévoit de permettre à toutes les communes dites tendues et celles limitrophes se situant dans la même intercommunalité de mettre en place cette mesure. Elle plafonne également le complément de loyer à 20% du loyer maximal et double les sanctions contre les propriétaires récalcitrants.
Le gouvernement publie à l'occasion des 10 ans de l'accord de Paris la troisième édition de sa stratégie nationale bas carbone.
Une feuille de route qui prévoit une baisse de moitié des émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 1990, qui permet de suivre la planification de la transition écologique et de nature à veiller à sa concrétisation secteur par secteur. Bonjour Véronique Reberotte.
Bonjour.
Véronique, la marche reste haute pour la France, pour atteindre ses objectifs.
Oui, très haute même, puisque pour
respecter l'objectif de 2030, vous l'avez dit, baisse de moitié de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc les émissions doivent baisser de 5% en moyenne dès 2024 et jusqu'en 2030. Si l'on regarde les baisses des deux dernières années, 2024 et 2025, la baisse sera de 0,8% cette année, donc, et moins 1,8% l'an passé. On est loin des moins 5%. La ministre de l'écologie, elle-même, Monique Barbu, avoue que la feuille de route climatique de la France, qui va principalement s'appuyer sur des leviers existants, ne sera pas, je cite, le grand soir, pas de grand changement de mode de vie à prévoir. L'accélération de la baisse de nos émissions impliquera surtout de plus de sobriété, d'efficacité énergétique. Concrètement, dans un secteur qui est à l'origine d'un tiers des émissions de CO2 françaises, les transports, cela signifie une forte augmentation du parc de voitures électriques. Le document prévoit d'atteindre 66% de voitures électriques neuves vendues en 2030, autrement dit 2 sur 3 contre 1 sur 5 aujourd'hui. Le gouvernement compte aussi sur un verdissement accru des flottes d'entreprises. Dans le domaine de l'agriculture, à l'origine de 20% de nos émissions, le document reflète parfaitement les tensions actuelles et la difficulté à changer de modèle de production. Le document incite à consommer plus de légumes et pas un mot sur la viande. Pour les bâtiments, cap sur les pompes à chaleur, essentielles pour réduire nos importations de gaz. Enfin, grande nouveauté, la France entend mieux tenir compte des émissions importées, c'est-à-dire liées à la consommation de produits fabriqués hors de France. C'est l'angle mort de l'impact climatique des pays riches. Il peut soudainement rendre un pays comme la France, qui se dit bon élève dans la lutte contre le dérèglement climatique, nettement moins premier de la classe.
Merci à vous, Véronique Robérot. Ajoutons que cette stratégie est mise en consultation pour une adoption finale vraisemblablement au cours des premiers mois de l'année prochaine.
Crise de la dermatose maintenant, avec tout à la fois une aide d'urgence débloquée en Occitanie et le gouvernement qui réaffirme que la solution, c'est la vaccination.
La région Occitanie s'est en effet engagée à débloquer 300 000 euros d'aide d'urgence eu égard aux foyers de dermatose nodulaire contagieuse détectés en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales. Deux autres régions sont touchées, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes comme convenu en ligne avec notre invité, Pierre Bessière, virologue à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce qu'on pourra avec vous essayer de faire un tableau général de la situation sanitaire concernant cette dermatose ?
Ouais, tout à fait. Donc là, on est sur un virus qui a été introduit sur notre territoire là pour la première fois de ça en juin. Actuellement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a amené à cette introduction. Et depuis, c'est un peu une course contre la montre qui se fait entre, ben, d'un côté les services vétérinaires et de l'autre côté le virus qui se propage, avec, comme vous l'avez bien dit, la décision qui a été prise de vacciner pour endiguer l'épidémie.
Alors, qui se propage ? Est-ce que l'on sait comment le virus apparaît dans un troupeau, avant de parler de sa propagation ?
Donc, la grande difficulté qu'il y a avec cette maladie, c'est qu'on est sur une maladie qui est dite vectorisée, c'est-à-dire que la transmission du virus se fait via les piqûres d'insectes piqueurs, notamment donc les stomox ou les tans. Et c'est ça qui fait que c'est une maladie qui est difficile à endiguer, parce que on peut pas empêcher les insectes de voler d'une ferme à une autre. Et donc, ce sont vraiment eux qui vont venir véhiculer la maladie. En parallèle, bien sûr, du transport d'animaux.
Alors, Pierre Bessière, on continue de parler de translation, mais d'une translation qui fait controverse. On dit beaucoup qu'une seule vache, un seul bovin d'un troupeau peut, s'il est, on va dire, acheminé d'un point A à un point B, peut contaminer tout un autre troupeau. Et là, il y a une controverse.
Non, moi, je suis d'accord avec ça. Bien sûr, si un animal est contaminé dans un troupeau, ça va être une source de virus. Et ensuite, dès lors que les insectes viendront faire leur repas de sang, il sera à même de venir contaminer d'autres animaux.
Qu'est-ce qu'on peut dire des dispositifs mis en place par le gouvernement, les zones réglementées, autres zones de surveillance ? Est-ce que, selon vous, ce sont de bons boucliers contre la maladie ?
Là, on est sur des dispositifs qui, effectivement, sont drastiques, qui ont un impact sociétal qui est extrêmement fort. Et j'ai conscience que, surtout pour les éleveurs, c'est quelque chose d'absolument bouleversant. Mais malheureusement, on est sur une maladie grave qui jusqu'à présent, n'avait jamais été introduite sur notre territoire. Et pour des maladies avec un tel impact à la fois économique et à la fois sur le bien-être animal, il est nécessaire de prendre ces mesures drastiques de telle sorte à ce que l'idée, c'est de, quand un élevage est contaminé, de le boucler totalement. L'idée, c'est que rien ne sort, rien ne rentre, pour empêcher qu'il y ait une diffusion en taches d'huile à partir de cet élevage.
Et le virologue que vous êtes préconise un abattage, total ou un abattage sélectif, comme les syndicats agricoles le préconisent ?
Ben, les syndicats, ils vont faire peut-être le parallèle avec d'autres maladies, comme par exemple la tuberculose bovine, pour lesquelles il y a des abattages partiels qui sont possibles. Mais il y a une grande différence entre cette maladie-là et la dermatose nodulaire contagieuse. La tuberculose, c'est une maladie contre laquelle on se bat depuis vraiment des décennies. Et maintenant, les cas qu'on a en France, ce sont vraiment des cas résiduels, parce qu'on est vraiment au bout de la bataille avec la maladie. La dermatose, c'est totalement différent. Cette maladie n'avait jamais été sur notre territoire. Et donc, il est vraiment nécessaire de faire en sorte qu'elle ne s'installe pas. Et en parallèle de ça, c'est très difficile de diagnostiquer la maladie. Si on a une vache qui fait un cas comme dans les livres, effectivement, elle sera pleine de nodules à la surface de sa peau. Là, ce sera facile d'avoir accès au virus. Mais dans le cas de cette maladie-là, il y a beaucoup, beaucoup de vaches qui sont asymptomatiques. Et donc, le virus est là, mais on ne peut pas le détecter.
À cet égard, justement, et c'est aussi préconisé par les syndicats, une vaccination préventive pourrait être efficace.
Et c'est exactement ce qui est fait. Dès lors qu'il y a un cas confirmé dans un élevage, eh bien
de tous les troupeaux, avant même d'attendre et d'atteindre, si je puis dire, une propagation plus conséquente.
Ouais. Alors, je comprends tout à fait cet argument. Donc, ce qui est clair, c'est que la vaccination fonctionne. C'est pour ça que c'est fait vraiment dans un périmètre autour des élevages infectés. Le problème, c'est que vacciner la totalité du cheptel de France, c'est compliqué d'un point de vue logistique. On a quand même 17 millions de bovins en France, et donc même si on mettait tout sur le terrain, tous les vétérinaires qu'ils dédiaient tout leur temps à la vaccination, il faudrait vraiment des mois pour le faire. Donc il y a des soucis de main-d'œuvre, il y a des soucis de doses disponibles. On ne peut pas commander d'un seul coup comme ça 17 millions de doses. Et c'est pour ça que actuellement, la stratégie qui est utilisée, c'est de vraiment ne vacciner que dans un certain périmètre autour des foyers, dans le but d'endiguer cette propagation.
Et oui, parce qu'en cas d'élargissement, et c'est encore une crainte formulée par la coordination rurale comme par la Confédération paysanne, la France pourrait perdre son statut indemne face à l'épidémie et compromettre ainsi certaines de ses exportations. C'est l'un des enjeux.
Tout à fait, effectivement. Si jamais on vaccine dans un endroit, on perd le statut indemne et après, on ne peut le récupérer que 14 mois après l'arrêt de la vaccination, bien sûr sous réserve qu'il n'y ait plus de cas. Et donc, il y a des considérations économiques qui sont là, bien sûr, mais c'est vraiment une maladie pour laquelle il y a aussi des notions de bien-être animal, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais c'est une maladie qui va vraiment être débilitante et entraîner de la souffrance animale. Et donc ça, plus les considérations économiques, font que les mesures qui sont mises en place sont, à mon sens, justifiées, même si elles sont, je sais, très drastiques.
Bon, d'un dernier mot, et merci d'avance d'être bref, on a parfois le sentiment que ces situations d'épizootie sont de plus en plus fréquentes. Est-ce qu'on assiste effectivement à une multiplication des cas? Vous avez dit grippe aviaire, fièvre catarrhale, dermatose maintenant.
Ouais, c'est clair qu'on vit à une époque où il fait bon d'être un virus. On est dans un monde qui n'a jamais été aussi connecté qu'aujourd'hui, et on l'a vu pour le Covid-19, dès lors qu'une maladie apparaît quelque part, eh bien, via les échanges commerciaux, sa transmission est d'autant plus facilitée.
Merci à vous, merci Pierre Bessière, virologue à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Louise Guérin pour la préparation.
Réquisition dans quelques heures au procès Péchier.
Et oui, décrit par l'accusation comme l'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française, il encourt la perpétuité mais clame son innocence. L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis 3 mois à Besançon pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, connaîtra en effet dans l'après-midi la peine requise à son encontre. Arrêtons-nous sur l'une des questions posées lors des audiences. Comment, selon les avocats généraux, Péchier a assassiné des patients pour conduire à la démission les anesthésistes susceptibles de faire de l'ombre à sa carrière? Au palais de justice de Besançon, Jean-Philippe Degnaud.
La docteure Arbé avait 30 ans de carrière sans le moindre incident, et cet anesthésiste va subir coup sur coup 6 accidents cardiaques de patients, tous médicalement incompréhensibles. Alors évidemment, à la clinique, on s'interroge, ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est certainement parce que la docteure Arbé n'est plus compétente. Elle est retirée des blocs. Et paf, poursuit l'avocate générale, un 7e accident cardiaque sur un patient qu'elle traitait pour une banale opération de la cataracte. La docteure Arbé quitte l'établissement sur le champ, couverte de honte, comme une malpropre, une agonie professionnelle, résume la magistrate, rappelant que depuis, la docteure est tombée dans la dépression et n'a même pas pu venir témoigner devant la cour d'assises. Le patient, lui, est décédé, assassiné par le docteur Péchier, en conclut l'avocate générale, empoisonné à la seringue, une véritable mise à mort, les yeux dans les yeux, juste pour se débarrasser d'une consoeur. Depuis hier, les deux avocats généraux examinent ainsi les 30 cas d'empoisonnement attribués à Frédéric Péchier. Elles diront cet après-midi quelle peine leur semble la plus adaptée pour cet accusé qu'elles qualifient régulièrement de tueur en série hautement pervers et terrifiant.
Jean-Philippe Degnaud. Le principal collectif de victimes de Notre-Dame de Bétharram a déposé ce matin à Pau 10 nouvelles plaintes pour violences sexuelles et physiques commises dans l'établissement catholique béarnais. Elles s'ajoutent aux 200 plaintes déjà déposées dans cette affaire, affaire dans laquelle 15 prêtres sont mis en cause, dont 14 sont décédés.
Et en Bulgarie, c'est moins la démission du gouvernement que l'ampleur de la contestation qui l'a conduit dans l'impasse qui mérite d'être soulignée.
Et oui, car la Bulgarie a du répondant en matière d'instabilité politique. 7 élections législatives depuis 2021. L'actuel Premier ministre Rosen Zhelyakov a remis hier sa démission après plusieurs semaines de manifestations contre la politique économique de son équipe et l'incapacité de ce dernier à combattre la corruption, des mobilisations grand format et d'une rare intensité. Sofia Damian Venetsiaov.
Les gouvernements bulgares ont décidément la vie courte. Celui de Rosen Zhelyakov, un proche de l'ancien Premier ministre Boyko Borisov, n'a survécu que 10 mois avant de démissionner sous les huées. L'opposition de centre-droit a su mobiliser la société contre la corruption, un fléau que le pays n'arrive pas à maîtriser depuis son entrée dans l'Union européenne en 2007. 150 000 personnes sont donc descendues dans la rue pour protester contre ce gouvernement qui a 2 mètres. Boyko Borisov d'abord, ainsi que son allié politique Delian Peevski, un oligarque sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni. Peevski, ayant commencé sa carrière dans les rangs du parti ethnique turc, dont il a récemment pris le contrôle, a une énorme influence au sein du système judiciaire et de la police. C'est également un mania des médias dont il n'hésite pas à se servir pour des règlements de comptes. Borisov, lui, refuse de se retirer de la politique même après la chute de son gouvernement il y a 5 ans, encore une fois sous la pression des manifestations contre la corruption. Pourtant, obtenir une majorité au Parlement devient de plus en plus compliqué. Ces législatives anticipées se sont tenues en Bulgarie depuis 2021, avec de plus en plus de partis représentés. 9 groupes ont obtenu des sièges dans le Parlement sortant. Les majorités sont donc construites à plusieurs, ce qui les rend très instables. Le gouvernement Zhelyakov était issu d'une coalition de 4 groupes. L'opposition est tout aussi divergente, avec des partis de centre-droit, d'extrême-droite pro-russe et des populistes. La date des prochaines élections n'est pas encore connue, mais il est très probable qu'elles reproduisent les mêmes résultats. Borisov, lui, désirait remettre à janvier la démission du gouvernement, histoire de savourer l'adoption de l'euro, un de ses grands chantiers depuis son premier mandat en 2009.
Correspondance de Damian Vodenicharov. Le Kosovo a commencé à accueillir des migrants déportés des États-Unis. Des ressortissants de pays tiers expulsés, dont on ne connaît pas la nationalité, expulsés en vertu d'un accord conclu en juin entre les deux pays. Le Kosovo, pays parmi les plus pauvres d'Europe, indépendant de la Serbie depuis 2008, souhaitait par cet accord exprimer sa gratitude envers les États-Unis pour leur soutien et leur coopération. L'Ukraine prête à créer une zone démilitarisée dans le Donbass. L'un des principaux négociateurs ukrainiens indiquait au journal Le Monde que l'Ukraine accepterait de reculer ses troupes dans les dernières parties du Donbass, qu'elle contrôle encore, mais seulement si une zone démilitarisée était mise en place à la frontière et contrôlée par une mission de surveillance et un contingent étranger. Une concession très dure pour Volodymyr Zelensky. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi, Claude, cette région est-elle si stratégique pour Kiev, pour Moscou et même pour Donald Trump ?
Eh bien, pour l'Ukraine, c'est avant tout une ligne de défense vitale, hein, puisque cette région ultra fortifiée est tenue depuis des années au prix de milliers de vies, et céder la souveraineté, même partiellement, ça risquerait d'ouvrir la route du centre du pays aux forces russes, et c'est une décision politiquement explosive et inacceptable pour une partie de la population. Le Donbass est un bassin industriel et minier historique, riche en charbon, en infrastructures, en ressources critiques pour l'économie ukrainienne, et le perdre serait affaiblir l'autonomie énergétique du pays et sa capacité à se reconstruire après la guerre. Et avant tout, bien sûr, le Donbass, c'est un territoire habité où vivent encore des centaines de milliers d'Ukrainiens. L'enjeu légal et moral est absolument immense pour l'Ukraine, qui en 2014 a déjà perdu sa souveraineté sur la Crimée et une partie du Donbass, et répète depuis 2014 qu'elle sait que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là.
Claude, pourquoi le Donbass est si important pour la Russie ?
Alors, pour Moscou, le Donbass est chargé d'histoire et de symbolique. C'est un ancien bastion industriel de l'ex-URSS. Et donc, contrôler le Donbass, ça lui permettrait de protéger les populations russophones, d'affirmer sa puissance, de contraindre l'Ukraine à reconnaître sa domination. C'est une victoire idéologique, symbolique et aussi militaire. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, que c'est une région riche de son sous-sol minier. Enfin, Donald Trump, lui, ne place aucun enjeu idéologique ou moral sur le Donbass. Derrière son image d'homme de paix qu'il cherche à afficher, il veut veut arrêter au plus vite cette guerre qui lui résiste, l'arrêter parce qu'elle est à la fois très coûteuse pour Washington et empêche de faire des affaires. Ce qu'il veut, c'est un deal économique, le soutien américain à Kiev en échange d'un accès privilégié aux minerais ukrainiens et également à entretenir un lien stratégique avec Poutine, essentiel dans la rivalité avec la Chine.
Claude Guibal, en pleine reprise des affrontements avec le Cambodge, le roi de Thaïlande approuve la demande du Premier ministre Anutin Charnvirakul de dissoudre le Parlement et de permettre ainsi au gouvernement d'éviter une potentielle motion de censure. Le conflit frontalier avec Phnom Penh a fait, selon un dernier bilan, 43 morts et a entraîné l'évacuation de centaines de milliers de personnes. Quelques mots de la météo pour refermer le journal. Le temps reste gris sur le quart nord-ouest et près des frontières du nord. Grisaille souvent tenace du plateau de Langres au Mâconnais et à la Bresse. Ailleurs, de belles éclaircies. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois, à la technique Nicolas Delmas.